On retrouve tout de suite Anto et on va parler notamment du GR20.
Oui, tout à fait. Le GR20 avec 4 jours d'exploit sur le GR20 pour Marc-Antoine Mulas, Lisandro Igao et Francesco Fargionel Ruggieri, qui était venu il y a quelques jours avec François Colombani sur les 91.7 dans l'ITV Calvez. Et je me suis dit quand même que après cet exploit, donc d'avoir parcouru ce GR20 en 4 jours, nous devions de les recevoir. C'est un peu les enfants de Lambert Santelli, hein. Est-ce que vous considérez comme ça, les gars?
Ouais, à peu près.
S'il vous plaît, voilà.
On va dire ça comme ça. Les enfants, peut-être pas, mais on va dire ses petits protégés.
En tout cas, on rappelle que c'était quelques jours après son exploit assez incroyable d'avoir parcouru ce GR20 à cette telle vitesse, cette telle rapidité. Donc vous êtes parti de Calenzana, il était
4h du matin.
Ouais, 4h du matin. On avait relayé l'information avec les photos. Alors comment ça s'est passé ces 4 jours sur ce GR20 pour vous?
C'est incroyable, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, je pense, et voilà.
Alors vous étiez quand même bien préparé, hein.
Oui.
Vous n'êtes pas parti comme ça à l'aventure.
T'es bien préparé, il y avait nos familles qui étaient qui nous ravitaillaient dans les endroits accessibles en voiture. Et puis il y avait nos amis qui ont couru avec nous, qui nous ont bien aidés durant ces 4 jours. Et puis on a pris un plaisir fou avec eux et tout le monde.
Alors vous étiez donc accompagné sur le parcours, ou vous étiez toujours tous les trois seuls?
Alors on a fait, sur les 4 jours, on a fait aller peut-être une matinée seule. Sinon il y avait toujours des amis à nos coureurs, que ce soit... Par exemple, les Mouvres et Balanigne avec nos amis qui nous ont ravitaillés. Et puis voilà.
Des amis à mode Corté, des amis de deux partout qui sont venus nous ravitailler.
Parce qu'on rappelle, donc, vous faites partie de deux clubs. Hein.
C'est ça.
Alors, les clubs, c'est...
Et Mouvres et Balanigne, et pour Marc-Antoine et moi.
Et moi, c'est à Vourmigou, là.
D'accord. De Corté.
Non, du Fumour.
Ah, d'accord. Ok.
Voilà.
D'accord. Donc, alors, 4 jours intenses. Les gens, comment est-ce qu'ils réagissaient quand ils vous voyaient sur le parcours? Parce que j'imagine qu'avec les réseaux sociaux, vous avez pris une certaine popularité. D'ailleurs, on vous reçoit aujourd'hui à la radio, c'est que...
Oui, on va dire ça comme ça. Mais il y avait un engouement énorme sur le GR20, ça nous a même étonnés. Des gens qu'on connaissait pas du tout, le message était bien passé par les refuges. Et donc, à tout moment, on voyait des gens avec les bâtons nous faire la hola alors qu'on les connaissait même pas. Ils nous félicitaient. Donc ouais, ça nous a un peu surpris. Après, au fil du temps, on commence à s'en rendre compte quand même que c'est un beau projet. C'est peut-être même un bel exploit sportif. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait du monde pour nous et ça nous a fait vraiment plaisir.
Oui.
Et puis, dans les refuges, un superbe accueil. On a très bien mangé, très bien dormi. Donc on tenait à remercier le parc et les refuges.
Alors j'ai appris grâce à vous que en fait, dans les refuges, il y avait à chaque fois un menu spécifique à chaque refuge.
Exactement, c'est ça, c'est ça.
Donc nous, la première nuit, on a dormi à Tidjet, on a mangé des pâtes
bolognaises.
Bon, après, la deuxième nuit, on a dormi à Vitsavone. Donc bon, là, on a mangé à la carte. Non, là, on a dormi,
non, là,
on a dormi
à l'hôtel.
Ah.
Dormi à l'hôtel. Et après.
Bon choisi, alors.
C'est ça. Et la dernière nuit, on a dormi à Ushuaïa, on a mangé
des pâtes carottes.
Voilà, c'est la spécialité.
Ça, c'est la spécialité, Ushuaïa, pâtes carottes.
C'est très bon, les pâtes carottes.
Ah oui, très bon. Très bon.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments faciles et d'autres beaucoup plus durs? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez très motivé et d'autres moments où vous disiez « Mais qu'est-ce que je fous là ?»
Le matin, enfin,
qu'est-ce qu'on fout là? Parce que vous êtes quand même trois, donc c'est peut-être plus facile pour se motiver.
Mais le matin, c'était plus compliqué. Après, l'après-midi, on était en meilleure forme, je trouve.
Le premier jour, quand on est parti, il y a deux personnes qui nous ont accompagnés. Et jusqu'au combien de kilomètres? Jusqu'au 5e kilomètre. Et après, ils nous ont laissés seuls. Et là, quand on s'est retrouvés seuls dans le GR, nous trois, on s'est rendu compte que ça y est, on y était. C'était maintenant et il fallait aller jusqu'au bout. C'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on faisait.
Sur les images qu'on a vues de votre départ, donc il fait nuit, vous partez à la frontale tous les matins, c'est comme ça?
Non, vas-y.
Alors, le premier jour, on est parti à 4h du matin. Le deuxième jour aussi, de Tidjet, on est parti à 4h du matin. On est arrivé un peu tard à Vitsavone, vers 19h30-20h, donc on a préféré, vu qu'on avait l'hôtel, etc., on a préféré dormir. Donc le troisième jour, on est parti à 6h donc dormir 2 heures de plus. Et puis le dernier jour, on a dit bon allez, on part à 5 heures, et donc voilà, on a un peu alterné les heures de départ. Ouais, ouais.
D'accord. quelle est la partie la plus dure du Gervin? Et ouais.
Bah, je pense pour nous ça a été le deuxième jour était très long. Il y avait des passages assez techniques avec pas mal de névés, donc des endroits où on n'a pas le droit à l'erreur, sinon on risque de se faire très très mal, voire bien plus.
C'est quoi, c'est la largeur du passage ou
ouais,
la
largeur.
Et puis le ravin qui était après le névé.
Et puis voilà, je pense ouais, c'était surtout le temps, c'était très très long, et il y avait des moments où on avait hâte d'arriver au refuge.
Mais après je pense que pour moi, la partie la plus dure, c'est le nord. Mais vu qu'on l'a fait en 4 jours, même la partie sud était dure pour nous, parce qu'on avait quand même beaucoup de kilomètres dans les jambes, donc ça a été très dur. Ça a été dur, assez dur pour nous.
Vous aviez déjà repéré le parcours en amont, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà fait des étapes seules, par exemple?
Oui, 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 vas-y. Déjà, on a pu accompagner Lambert sur la partie sud, il y a une semaine avant. Et puis...
sur la partie sud complète ou...
Non, ah. quelques étapes. Et puis, on avait déjà fait quelques reconnaissances dans le nord avec Marc-Antoine. Mais puis, Lisandre, il connaissait déjà, comme il est en section montagne à Corté, il avait déjà fait pas mal d'étapes. Et puis, le Gervin, on l'a fait.
Moi,
je l'avais fait dans l'intégralité. Avec
moi aussi.
Lisandre aussi, donc on,
mais vous l'aviez
on
fait
le connaissait.
Mais sur plusieurs
en randonnée.
Voilà, en randonnée, là, c'était en randonnée, oui.
Ouais. Qu'est-ce qui différencie justement la randonnée et le côté plus sportif, on va dire?
Et déjà en randonnée on part avec un sac, donc on peut prendre 12 et enfin 18 kilos, ça dépend. Ouais. Et puis là en mode trail on part avec un camelback, deux flasques et
de 3 kilos, 4 kilos.
Ouais. Voilà,
l'essentiel. Et puis dans les endroits roulants, pour un trail en cours, on essaie de courir.
Roulant, c'est-à-dire
des passages plats où c'est ouais. assez propre et tout. Là, on court, alors qu'en randonnée, on marche avec un sac, on ne peut pas courir.
Ouais. Disons que vous appréciez le paysage différemment.
C'est ça.
On profite plus en randonnée, ça, c'est sûr.
D'accord. Donc, il y a un côté donc, sportif dans ce que vous faites. En même temps, donc, vous n'étiez pas dans la même configuration que Lambert, où lui, il était parti sur une période vraiment où il devait être le plus court possible. Là, c'était quand même 4 jours, ce qui vous permettait quand même de pouvoir gérer votre temps de départ tous les jours, j'imagine.
Oui, oui. C'était bon, après on essayait d'aller quand même assez vite, de se maintenir à 1 heure à peu près approximative, mais on n'était pas à courir après le chronomètre. Et puis moi je pense que au-delà de l'aspect sportif, c'était vraiment un moment de partage entre amis, donc on a su profiter, on s'est soutenu, et c'est ça qui fait la beauté de ce projet. Et je pense que c'est pas le chrono ou quoi que ce soit, c'était vraiment de partager un bon moment avec un objectif sportif, mais tout en s'amusant. Je pense qu'on l'a rempli amplement.
Parce que en plus, j'imagine que même si vous faisiez ça de manière sportive, il y a quand même des moments où vous pouviez vous arrêter. Enfin, est-ce qu'il y a des moments où on se dit, attends, quand même, j'ai de la chance d'être là. Enfin, et est-ce que vous avez, est-ce qu'on a la conscience d'être dans un environnement complètement, je dirais, paradisiaque, quoi.
Ah oui, des fois, quand on arrivait sur des cols ou des sommets, on se disait là, il faut prendre une photo pour ce moment, pour garder ce moment, pour s'en rappeler après quand on regardera la photo. Oui, ouais, ça c'est sûr que c'était, il y avait des endroits magnifiques. En plus, on a pris le beau temps, on voyait, il y avait une très très belle vue, on voyait la mer alors qu'on était au sommet du Monte Cinto, on voyait la mer des deux côtés, c'était magnifique.
Alors, une chose importante aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous alimentiez en fait tout ça? Est-ce que depuis, enfin, sur place, vous envoyez par moment des publications ou c'était surtout le soir à l'arrivée au refuge?
On n'a pas pu répondre à tout le monde.
Ah
donc
oui,
on a essayé de mettre 2-3 publications après le GR20. Et puis il y avait nos amis, notre famille qui mettaient les dernières informations. Donc
quand on arrivait dans les refuges, on les appelait pour dire qu'on était arrivé au refuge et eux mettaient une photo en disant qu'on était bien arrivé au refuge pour que les gens sachent où on était.
D'accord.
Alors, pour rassurer les gens qui demandaient constamment des nouvelles.
Alors, ça, donc, c'est une étape importante et ça restera évidemment gravé dans votre mémoire. Derrière, il y a ce projet hein, de la promotion en fait du trail, notamment donc dans la jeunesse. Comme vous le disiez dans la précédente émission, vous aimeriez qu'il y ait un maximum de gens qui puissent vous rejoindre au moins dans l'état d'esprit, quoi.
C'est ça, voilà. Et puis même, à faire, pourquoi pas encore repartir sur un GR en 4 jours, mais avec plus de monde, qu'on soit...
50.
Non. qu'on soit, par exemple, 8, même 8, une dizaine, ce serait le top. Ce serait, ouais, des jeunes entre nous. Je pense qu'on pourrait vraiment, il pourrait avoir vraiment une ambiance, une belle ambiance. Oui.
En tout cas, la promotion de ce sport est importante pour vous. Justement, est-ce qu'il y a des projets derrière?
Eh ben, pourquoi pas, vu que nous, en Corse, on est, on va dire, les trois jeunes à pratiquer ce sport, pourquoi pas arriver plus tard à essayer de développer une école de trail en Corse, parce que en Corse, on est entouré de montagnes et arriver à développer une école serait pas mal.
Quelle est la préparation physique pour un trailer? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, en fait?
Vas-y. Moi, je vais dire déjà de s'entraîner régulièrement. C'est ça. Ça vient pas par le fruit du hasard. C'est des sports d'endurance qui sont assez marquants et je pense que il faut vraiment s'entraîner au fil du temps, prendre le temps, pas être trop pressé de vouloir faire trop de kilomètres au départ. C'est-à-dire commencer tranquille, à faire même des petites marches avec ses parents quand on est jeune, puis augmenter et puis ça vient comme ça. Ça vient tout seul.
Ouais.
Mais bon, après, il y a certaines personnes qui sont plus douées, ils ont ça, c'est inné, mais l'entraînement, c'est pour moi le plus important. Si on s'entraîne et mentalement on est bien, on peut réaliser des projets fous comme on a réussi à faire.
Après, pas obligé de pratiquer sur des longues distances, hein. On peut commencer avec du 10 km, même 5 km, tout doucement, à courir un peu en trottinant, et après augmenter les kilomètres au fil du temps.
Oui, bah c'est sûr que enfin la forme vient en fait à force de,
voilà,
il suffit de monter un peu à haut, j'ai une fois de temps en temps déjà.
Voilà, oui, c'est déjà pour commencer, c'est déjà bien même.
Voilà, assez tôt hein, parce qu'il fait chaud hein, très
chaud. Oui. Ça c'est sûr qu'il a fait, même sur le GR20, il a fait très chaud.
Justement, alors vous me parliez du GR20, alors moi j'étais persuadé que enfin dans les règles, on devait partir de Calenzane et aller à Conques, mais il y en a qui font le contraire.
Mais oui, ça c'est le GR20 traditionnel, je dirais. Ouais. Et puis on a constaté, enfin, qu'on marchait, enfin, on courait, etc. Et on s'est dit, on croisait beaucoup de gens qui faisaient Conques à Calenzane, donc c'est peut-être plus facile. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui font
même ça, l'inverse. Oui. Et puis il y a des gens qui font aussi, on croisait des gens, on demandait. Il y a des gens, ils disaient, non, nous cette année on fait que la partie nord. L'année prochaine on reviendra, on fera la partie sud. Voilà.
D'accord. Et là, après, ils font l'intégrale après.
Voilà. C'est ça, voilà.
Quel est le mieux en fait, puisque vous vous connaissez, c'est quoi?
Pour moi, je dirais que partir du sud, ce serait un peu plus facile, je pense. Mais après, du sud, j'ai jamais fait, mais je pense que.
Moi, je pense que aussi pareil. Partir du sud, c'est moins, il y a moins d'histoire. Voilà, le tracé, c'est vraiment du nord au sud. Il y a plusieurs personnes qui ont tenté des records, il y a plusieurs personnes qui sont passées. Je pense que l'histoire du GR20, c'est de partir au nord pour finir au sud. Après,
je pense que si on avait fait notre GR20 en 4 jours en partant du sud, on n'aurait pas totalement rempli notre objectif, je pense. Dans ma tête, je ne me serais pas dit, j'ai fait mon GR20, voilà.
On voit souvent, enfin, il y a un terme qui revient souvent chez les anciens, les neiges éternelles. Est-ce que vous avez creusé de la neige sur votre parcours?
Oui, il y avait pas mal de névés, en passant par exemple au lac d'Argent, c'est juste après Ascq, puis aussi à Bocalébourg et au-dessus de Manque. Il y avait pas mal de névés.
Et alors, comment est cette neige actuellement? Est-ce qu'elle est molle ou est-ce qu'elle est dure?
Non, nous, quand on est passé dans l'après-midi, donc le soleil avait déjà assez tapé dessus et c'était assez mou. Donc ça allait, il y avait déjà les traces de pas, elle était formée pour le passage.
Ah, d'accord.
Mais il fallait faire quand même très attention.
Ah, tu peux glisser là-dessus, non?
Exactement. En plus, avec la fatigue qu'on avait, donc on s'aidait des bâtons aussi, et ouais, on peut
vite finir dans un lac.
Ouais. C'est vrai.
J'imagine que vous avez des sponsors ou des gens qui vous ont aidé pour tout ce qui est matériel. Quelles sont ces personnes, quelles sont ces entreprises?
Il y a eu des restaurants, des hôtels, des boutiques de vêtements,
nos parents.
Donc, non,
parce que c'est quand même un budget quand même.
Ah oui,
c'est sûr. Bon, on a pris un très bon équipement après aussi. Il faut pas...
Oui, on a pris le meilleur équipement possible pour être dans les bonnes conditions.
D'accord. C'est quoi un meilleur équipement possible?
Pour nous, on a pris les t-shirts, les shorts, les chaussures Salomon. Après, les bâtons, on les quille. C'est des bâtons très légers, en carbone, pour avoir le moins de poids possible sur nous.
Et ces marques ou entreprises, est-ce qu'elles connaissent votre record? Est-ce qu'elles vous ont aidé financièrement?
Non, c'est pas, avec ces marques, faut vraiment avoir un très haut niveau pour arriver à rentrer dans, avec ces marques, en contact avec ces marques.
Ouais, voilà, c'est ça.
D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que, alors, d'abord, une fois qu'on a terminé ce GR20, est-ce que on peut reprendre une activité normale? Est-ce que vous êtes reparti déjà marcher depuis, ou alors on se repose un peu quand même?
Bon, moi, là, j'ai repris le travail chez Lambert Santil, donc chez Edgar. Donc, je peux vous dire que hier, on a pas mal cavalé, mais pour l'instant, tout va bien, pas de coups de mou, on a bien récupéré.
Je suis un peu gonflé, mais sinon, ça va.
À quel niveau, cheville gonflée?
Dans une dizaine de jours, on reprendra la course, tout doucement.
Oui, tout doucement.
Alors, quels sont les prochains objectifs? Vous devez monter, je crois, à la Croix des Autrichiens.
Avec l'équipe de RCC, on va monter avec François
Anto, je monterai, je l'ai fait. Donc, je pense que la deuxième fois, c'est pas que c'est plus facile, mais on sait déjà à quoi s'attendre.
C'est ça.
François l'a jamais fait, je crois, lui. Hein.
Non, mais on montera en balade, tranquillement.
Voilà.
Oui.
On fera une belle photo, j'espère.
Exactement.
Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant de se quitter?
Ben, vu que cette année, on a fait le GR20 en 4 jours, et moi, vu qu'il y a 3 ans, j'ai fait le tour du Mont Blanc, en 9 jours en randonnée cette fois, je me suis aperçu sur le GR20 que si on a réussi à faire le GR20, pourquoi pas faire le tour du Mont Blanc l'année prochaine en 4 jours ou en 3 jours. Donc, c'est peut-être notre prochain objectif.
Là, évidemment, ça demandera beaucoup plus de préparation, d'aide financière.
D'aide financière, oui, surtout. Là, on pense faire appel à un club ou qui puisse nous monter les affaires dans des refuges, parce que là, on connaît personne dans les refuges. Mais je pense que la préparation, vu qu'on a réussi le GR20 en 4 jours, le tour du Mont Blanc, ça peut demander même un peu moins de préparation. Parce que moi, je l'ai fait et je me suis aperçu que vraiment le GR20, c'était le plus dur.
Ah oui. Et alors, question peut-être qui va vous paraître stupide, mais quand on pense au Mont Blanc, on pense à la neige. C'est comme le GR, il y a quand même des parties où en fait où il n'y a pas du tout de neige, quoi.
Ah non, il y a des sur le tour du Mont Blanc, on part. Le tour. Moi, je suis parti de Courmayeur et passe en Italie, le tour du Mont Blanc. Après en Suisse et après ça revient en France et ça refinit en Italie à Courmayeur.
Et ça fait combien de kilomètres?
Ça fait 170 avec 10 000 de dénivelé.
Donc finalement, c'est la même distance que quasiment le.
Que le GR20, mais. Mais c'est vraiment
le terrain n'est pas le même.
Oui, le terrain est vraiment plus roulant. Moi, j'ai fait d'Italie en Suisse. Sur la route, j'ai pas trouvé un caillou.
Ah ouais.
Il y a des gens qui font le tour du Mont Blanc en VTT, donc
c'est une autoroute, quoi.
C'est exactement, c'est ça.
Ouais. C'est ce qui fait un peu différencier aussi un peu notre paysage. C'est-à-dire que nous, on a quand même quelque chose d'assez brut qui est resté, j'irais, dans l'état. Je sais pas si c'est le terme approprié.
Oui, c'est ça, oui. Mais alors que
c'est tellement fréquenté qu'à mon avis.
Oui, voilà, il y a beaucoup de gens à Chamonix. Ici, moi, quand je vais à Chamonix tous les ans, je vois les gens sont tous habillés en tenue de trail dans la ville. Alors qu'ici, on croisera personne à Calvi habillés tous en tenue de trail en ville. Ils sont tous habillés normalement en jean. Voilà, je pense que là-bas, c'est vraiment l'esprit montagnard.
Bien. Bon, alors, merci d'être venu ce matin sur RC pour nous raconter cette aventure. Je crois que vous aviez également peut-être des messages personnels.
J'ai un petit message à faire passer parce qu'on commence à se rendre compte quand même de ce qu'on a fait. Alors, tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à tout le monde. Donc, les parents en particulier, la famille, les amis, les sponsors. Je voudrais aussi remercier Lisandro et Francesco, tout particulièrement, pour ces rigolades, pour cette fabuleuse aventure et tant d'autres choses qui seraient trop fastidieuses à énoncer, tellement il y en a. Nous étions des amis avec une complicité folle auparavant, et je pense que maintenant je peux dire que vous êtes comme des frères pour moi. Vous êtes des gens sur qui on peut compter, dans les bons moments comme dans les moments les plus compliqués. Et comme j'ai pu le voir sur ce GR20, ce projet, pour moi, il représente pas qu'un exploit sportif. C'est bien qu'il soit énorme, c'est une leçon de vie. et elle restera jamais aggravée dans ma mémoire, et j'espère que vous aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à mes amis.
Bien. Francesco.
Ben, merci beaucoup. Enfin, on est...
Ah oui, oui.
Non, on s'est régalé, et puis on espère qu'on, enfin, on espère revivre des aventures comme ça avec les mêmes personnes, parce qu'on a pris un plaisir fou, et ça, c'est comme il a dit, on, ça restera jamais gravé dans notre mémoire.
Toujours,
oui,
toujours gravé dans notre mémoire.
Ce qu'on a vécu, et... c'était énorme.
C'est ça.
Prochain rendez-vous, donc, c'est la Croix des Autrichiens.
C'est ça.
En mode plutôt cool.
Oui, en randonnée.
En randonnée. Je ferai tout pour vous accompagner, et j'ai hâte de voir François dans cette expédition. Bon, qui est beaucoup moins longue, hein.
Oui, ah
c'est
oui.
Quoi, ça dure combien de temps pour monter?
Je sais pas.
Enfin...
Oh, tranquille, 2h30.
Ouais.
Tranquille, on monte tranquillement.
On n'est pas pressé.
On mange là-haut et on va descendre.
Ça va. Merci d'être venu ce matin sur RCC pour nous compter cette aventure. On vous suivra évidemment pour la suite.